Je voudrais dès maintenant vous inviter à ouvrir la Bible dans Proverbes. Proverbes chapitre 12, verset 11. Deux versets en fait dans le livre des Proverbes. Proverbes 12 et après Proverbes 28. Proverbes 12, verset 11. Vous allez voir d'ailleurs qu'ils sont très proches, à un petit détail près. J'aimerais vous parler ce matin de trois choses à cultiver dans nos vies spirituelles. Et dans Proverbes 12, verset 11, nous lisons ceci. « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Amen. Littéralement, dépourvu de sens, ça veut dire manquant de cœur. C'est très intéressant de s'apercevoir que celui qui poursuit des choses vaines et manquant de cœur. Manquant de cœur, mais il faut le voir dans le sens spirituel, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, qu'il n'a pas la capacité de voir les choses de manière spirituelle. Celui qui poursuit les choses vaines. Mais nous avons un Dieu qui nous rappelle tout simplement que celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Alors c'est une vérité, humaine, normale. C'est-à-dire que quand on sème du blé, on va récolter de quoi faire du pain. Mais c'est une vérité spirituelle. Celui qui cultive son champ, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, cultiver son champ, il sera rassasié de pain. Il sera rassasié des grâces que le Seigneur veut lui donner. Regardez le Proverbe 28 maintenant, en gardant en mémoire donc ce qu'on vient de lire. Proverbe 28, verset 19. Quand on retrouve des versets qui sont quasiment les mêmes avec une petite chose qui diffère, c'est qu'il y a un enseignement derrière. Parce que ça commence exactement pareil. Le début, c'est exactement le même. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Et on peut dire amen. Même si on ne veut pas être rassasié de pauvreté. Mais on veut dire amen, surtout à la première partie. Mais c'est la parole de Dieu qui nous met en garde également. Vous savez que la parole de Dieu propose la bénédiction, mais à celui qui ne veut pas la bénédiction, il récolte la malédiction. Elle est comme ça, c'est une épée à double tranchant. On ne peut pas se tenir au milieu. On ne peut pas dire « je prends ce qui m'arrange de la parole de Dieu et ce qui m'arrange du monde ». Non, c'est quelque chose de tranchant, de coupant, mais qui nous permet ensuite de vivre des choses bénies de la part du Seigneur, être rassasié. Qui désire être rassasié par le Seigneur ce matin? Qui désire recevoir un rafraîchissement du Saint-Esprit ce matin? Amen, on est tous d'accord, parce que c'est exactement le programme de Dieu, mais il nous met en garde. Celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Combien les mots sont importants, parce qu'il est question d'un côté de cultiver. Cultiver, ça veut dire qu'il y a un espace défini. Ça veut dire qu'on travaille, on fait une activité, mais on sait exactement là où on est. Tandis que poursuivre, c'est l'idée de chasser. C'est l'idée d'aller là où la chose nous conduit. L'animal, il s'en va un peu partout parce qu'il a peur, et le chasseur, il est obligé de suivre. Mais cultiver, on sait. Et la vie chrétienne, on sait ce dont il est question. Il n'y a pas besoin de s'éparpiller dans plein de directions. Il est question de notre cœur, il est question de notre âme, il est question de notre salut, il est question de notre paix, il est question de notre joie. Et tout ce qui est en dehors de cela peut être résumé aux choses vaines. Alors bien sûr, on est sur la terre, il faut être aussi sage, il faut être... tenir compte de tout ce que le Seigneur nous a confié, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Littéralement, celui qui poursuit des choses vaines ou vides est rassasié de pauvreté. Vous savez qu'il y a des choses qui semblent importantes aux yeux de ce monde, mais quand spirituellement on vient taper dedans, on s'aperçoit que c'est creux, c'est vide, ça ne va rien apporter. Hier on parlait avec les jeunes de ces exemples d'hommes qui ont beaucoup d'argent, qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont eu de la gloire, et qui malgré tout ça, on peut se dire quand même ils sont comblés, mais malgré tout ça ils ont le cœur vide, et certains se sont même tués, donné la mort, dans cette position d'autorité, de pouvoir, parce que c'est pas l'autorité, le pouvoir, l'argent, la renommée qui remplit le cœur de quelqu'un, Mais c'est le Saint-Esprit qui veut remplir nos cœurs. C'est la présence de Dieu qui veut remplir notre cœur. Alors, nous sommes invités à cultiver certaines choses. Et on va voir ces trois choses. Alors, il y en aurait beaucoup à dire, mais trois. On va se contenter de trois choses à cultiver. La première d'entre elles se trouve dans le psaume 27. Une chose à cultiver pour être rassasié de pain. Psaume 27, verset 4. Je n'ai pas la prétention de vous faire lire des versets que vous ne connaissez pas, mais je crois que le Saint-Esprit veut rappeler à nos cœurs ces paroles que nous connaissons. Psaume 27, verset 4, ce psaume de David qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de ta tente, il m'élèvera sur un rocher. » Amen. Certains d'entre vous ont peut-être déjà fait, j'espère, cette expérience, au jour du malheur, d'avoir notre vie qui est comme sur un rocher. Le malheur est là, on est entouré d'ennemis, entouré de difficultés, d'épreuves, mais on est comme sur un rocher élevé au milieu de tout ça, et on regarde comme des spectateurs ce que Dieu est en train d'accomplir. Dieu nous met à part, Dieu nous met à l'écart de tout cela. Alors, on est confronté à ces choses, mais on ne subit pas les épreuves que l'adversaire veut nous faire vivre, et on voit que le secret que David a compris et qu'il nous partage, c'est qu'il demande une chose. Il y a une chose à cultiver dans nos vies. Et il ne le demande pas à n'importe qui, il le demande à l'Éternel. Vous pouvez demander parfois des choses aux hommes. Parfois, ça m'est arrivé comme demande des choses, et qu'est-ce qui se passe? J'oublie. Personne ne nous arrive d'oublier. Mais l'Éternel, est-ce que vous pensez qu'il oublie? Est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il comprend mal? Non. Je demande à l'Éternel une chose. Vous savez que demander, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Qu'on lui demande, c'est quelque chose qui lui plaît. Mais Jacques va dire, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Dieu si on ne lui demande pas mais qu'il ne nous donne pas? Ben rien. Et il va ajouter, parce que des fois on dit, mais Seigneur, moi je t'ai demandé, hein. Oui, ou alors vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises, vos désirs charnels. Il y a des choses que le cœur, notre cœur charnel demande au Seigneur, mais que Dieu fait en sorte de ne pas nous donner, heureusement. Parce que Dieu est sage, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Mais David disait, je demande à l'Éternel une chose. On s'aperçoit, on ressent dans cette phrase que David cherche. D'ailleurs, il appelait l'homme selon le cœur de Dieu, ou l'homme après, qui poursuit le cœur de Dieu. Et ça, ce n'est pas une chose vaine, le cœur de Dieu, mais il avait le désir de faire, de demander ce qui plaît à Dieu. Je demande à l'Éternel une chose. Vous savez, parfois, on rencontre des personnes qui disent « Seigneur, j'ai pris telle ou telle décision sans te demander. » Enfin, elles ne le disent pas comme ça. Hein. « J'ai pris telle ou telle décision sans te demander. Maintenant, bénis-moi dans ma décision. » Ça ne marche pas. Mais on a besoin de demander et de prendre du temps. Et qu'est-ce que nous dit David? Je désire une chose, je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je veux avoir ce temps infini. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de chrono là dans ce verset. Il n'y a pas de montre qui tourne et on se dit ah, est-ce que je vais louper le rendez-vous? Non, je veux prendre un temps où c'est le Seigneur qui définit comment ça va se passer et où il va me parler. Et où il va me convaincre, et où il va me diriger, et il va me montrer le chemin que je dois prendre. Une chose que je désire ardemment. Ça vous est déjà arrivé de désirer des choses ardemment? J'espère que oui. Et j'espère que quand vous vous adressez au Seigneur, quand nous nous adressons au Seigneur, nous demandons avec ardeur. Vous savez que la prière du bout des lèvres, ça ne change rien. Mais même la prière, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un, une belle prière bien construite, mais qui ne vient pas du cœur, ça ne change rien non plus. Ça ne dépasse pas le plafond. Dieu regarde dans nos cœurs et il veut une prière qui vient du cœur. Dieu veut une prière qui soit un désir ardent. Il y a parfois des demandes passives. On prie, mais on ne veut pas en fait que Dieu nous exauce. Ou alors on n'est pas convaincu. Ou alors on montre par notre attitude qu'en fait on désire pas vraiment ce qu'on est en train de demander. Mais Dieu attend une prière ardente, une intensité dans notre demande, qui manifeste notre foi, la façon dont on prie, la façon dont on vibre quand on prie, la façon dont on vibre quand on parle du Seigneur à quelqu'un, ça montre notre foi. Si on dit, oh, ça serait bien que tu te convertisses, tu vas voir que avec le Seigneur, c'est la vie merveilleuse. Ça vous donne envie? Mais moi, j'ai pas envie, en m'écoutant. Mais quand on a vécu quelque chose avec le Seigneur, quand c'est quelque chose qui est personnel, pratique, concret, et qu'on le partage, le Seigneur a fait ça dans ma vie, le Seigneur, j'ai prié, et il a exaucé ma prière, tu devrais faire pareil, mon ami. Et ça donne envie, parce que c'est quelque chose qui est ardent. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il fait des choses ardentes. Alors oui, parfois, il est dans ce murmure doux et léger, quand on est dans la communion avec le Seigneur, mais quand il va s'exprimer, il va y avoir quelque chose qui dépasse la nature humaine, quelque chose qui transparaît de notre vie et qui vient tout droit du ciel. Le Seigneur dépose sa marque sur nous. Il nous est dit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut être répandu sur nous et qu'il y a quelque chose du Saint-Esprit qui s'en dégage pour la gloire de notre Seigneur. Une chose que je désire ardemment. Quand est-ce que la dernière fois vous avez prié en étant tellement touché, ardent, que vous étiez en pleurs et que vous arriviez même pas à articuler des mots? J'espère que ça vous est déjà arrivé. Mais c'était quand la dernière fois? Est-ce que ça remonte à... Ah oui, je me souviens à ma conversion il y a 70 ans. Mais c'est bien. Mais c'est quand la dernière fois? Parce que le Seigneur veut renouveler. Je pense à des exemples de la Bible. Vous savez, on voit des personnes qui se sont retrouvées. Je pense à Anne dans le temple. Anne qui était là, qui était dans l'affliction à cause de sa stérilité, à cause de ce climat familial tendu, et qui était dans le temple, mais qui était dans la prière, dans l'intercession, qui était là, elle n'arrivait même plus à articuler les mots, mais il n'y a que les lèvres qui bougeaient, mais il n'y avait plus de son qui sortait de sa bouche, elle était là, devant le Seigneur. Et un merveilleux pasteur de l'époque lui a dit, mais va cuver ton vin ailleurs, t'es dans l'ivresse là, qu'est-ce que tu fais là? Quel discernement! Mais le Seigneur l'avait vu. Et cette femme qui était là dans cette prière ardente, et on comprend, elle a mis en pratique, elle texto, hein, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. En plus, ça s'est passé avant que David écrive les psaumes. Hein. Mais elle a fait ça. Elle a vécu ce temps avec le Seigneur. Seigneur, tu vois ma misère, tu vois, je suis stérile. Seigneur, je ne sais pas comment je peux faire. Mais vous savez que Dieu l'a entendu. Cette prière qui était là, qui aux yeux humains pouvait être peut-être trop humiliante, mais Dieu l'a vu, Dieu l'a entendu, Dieu l'a recueilli. Et l'enfant qu'il lui a donné, vous savez qui c'est? Samuel. Est-ce que Samuel a été une bénédiction? Pour le pays d'Israël, c'est incroyable. Ils avaient eu un temps de mouvement politique difficile avec le temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon, et Samuel a été utilisé par le Seigneur pour bénir toute une nation parce qu'une maman est venue prier dans la présence de l'Éternel. Même elle avait plus de mots, elle avait que des larmes, mais le Seigneur l'a entendu parce qu'il y avait un désir ardent dans son cœur. Je demande une chose que je désire ardemment, Éternel. Est-ce que nous avons une ardeur dans notre cœur, dans les choses que nous demandons? Et est-ce que ce sont des bonnes choses? Passer sa vie dans la maison de l'Éternel, c'est une bonne chose. Je ne dis pas de mettre vos matelas ici pour dormir là toute votre vie, parce que ça sera compliqué, parce qu'on n'a même pas le droit de le faire. Mais c'est pas ça. C'est cette communion avec le Seigneur. Et la chose que nous devons cultiver, c'est notre communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose, un acquis que l'on a pour toute notre vie. On a accès quand on est sauvé, on a accès à la présence de Dieu. Mais il faut cultiver la présence de Dieu. De la même manière qu'on a notre cheminée, on a accès à la cheminée, mais après c'est à nous de mettre du bois dedans, et c'est à nous d'entretenir le feu. Est-ce que vous demandez au Seigneur, avant, quand il fait froid, « Seigneur, je t'en prie, coupe du bois et mets-le dans ma cheminée. » Mais non, c'est à nous de le faire. Dieu nous donne la grâce d'en avoir une, si on en a une, ou d'avoir un chauffage ou d'autres moyens, mais il faut faire le travail. je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je pense à cette autre femme qui était au pied du Seigneur Jésus. Là aussi, pas une parole, mais en train de, vous savez, pleurer sur ses pieds, de les essuyer, de les laver. Et le Seigneur a vu son cœur. Et le Seigneur a vu toutes les choses horribles qu'elle a pu faire dans son passé, mais a vu aussi combien elle regrettait et combien elle était désireuse de faire des progrès dans sa foi. Entre nous, qui n'a jamais fait des choses mal dans son passé? Qui peut se lever la main, se lever et dire « Moi, non, j'ai toujours fait les choses carrées, comme il faut. » Ben, on a besoin de se voir à la fin, si vous êtes dans cette disposition-là. Mais je crois qu'on a tous compris. Il ne faut pas longtemps, quand on est même enfant, on le voit vite, qu'à un moment donné, on a fait quelque chose de travers. Mais que par la grâce de Dieu, quand on vient dans la présence de Dieu, notre passé est effacé, sinon si on est dans la repentance. C'est pour cela qu'on a besoin de désirer ardemment la communion avec le Seigneur, de cultiver cette communion avec le Seigneur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie pour contempler la magnificence de l'Éternel. Le monde va vous faire croire que la religion, la foi, c'est quelque chose d'ancien, de vieillot, qui vaut pas la peine, il n'y a rien d'intéressant. Ça, c'est le message du monde. Mais le message de la parole de Dieu, le message de David dans ce psaume, c'est que contempler la présence de l'Éternel, c'est magnifique, ça change la vie, ça nous transforme, ça peut guérir, ça peut sauver, ça peut changer les circonstances de nos vies, quand on met notre foi dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut cultiver sa communion avec le Seigneur ? Je trouvais intéressant cette anecdote de Watchman Nee. Vous connaissez Watchman Nee, ce pasteur qui a fait plusieurs livres très profonds. Mais il a fait une mission un jour dans une île au large de la Chine, où il y avait environ 6000 maisons. Nee, il avait un ancien camarade de classe qui était là-bas, qui était le directeur de l'école du village. Mais cet homme a refusé de loger le groupe d'évangélisation parce qu'il a compris qu'il venait parler du Seigneur. Alors, ils ne voulaient pas se mouiller, se mélanger avec eux. Et donc, ils ont logé chez un herboriste qui s'appelle Wu, et qui est devenu finalement, comme il les a hébergés, il a discuté avec eux, ils lui ont parlé du Seigneur, il est devenu le premier converti de l'île. Et ce jeune Wu a demandé à un groupe qui s'était réuni pour les entendre prêcher, donc ce groupe d'évangélisation. Il leur a dit, c'est quand la procession de l'idole cette année? Cette île, en fait, avait une idole, et tous les ans, ils déplaçaient la statue sur tout un chemin avec tout un protocole qui se faisait religieux. Et donc, Wu, il a demandé, c'est quand cette année que ça doit se faire? C'est fixé au 11 janvier à 8h du matin. Alors, ce jeune homme, fraîchement converti, mais convaincu par le Seigneur et poussé par le Saint-Esprit, a dit, cette année, je vous annonce qu'il va pleuvoir. En fait, il se trouvait qu'à chaque fois qu'ils avaient sorti l'idole pour faire leur procession, ils avaient toujours eu du beau temps. Il y avait comme une emprise spirituelle qui était avec cette idole-là. Mais ce jeune homme qui a eu les yeux ouverts sur l'évangile a dit « Cette année, il va pleuvoir. » Et tout le monde l'a hué, tout le monde lui a crié dessus. Ils ont dit « Allez, va-t'en, on ne veut plus t'entendre. » Et donc, il est rentré chez lui. Mais il est allé parler à Watchman Nee qui était dans un autre lieu. Ils sont allés ensemble discuter de ça. Et puis surtout, ils ont dit, il faut qu'on prie. Il faut qu'on cherche la face de Dieu. Il faut qu'on cultive notre communion avec le Seigneur par rapport à cette histoire. Et donc, ils se mettent à prier. Ils se mettent à prier pendant des jours et des jours. La nuit, le jour, ils se relaient pour prier. Et le 11 matin, pas un nuage dans le ciel. Alors quand ils regardent ça, c'est pas grave, il continue de prier. Et puis, au moment du petit déjeuner, quelques gouttes commencent à tomber. Et les adorateurs de l'idole, ils disent, bon, c'est juste un petit passage nuageux, on y va quand même. Mais à mesure qu'ils avancent, la pluie devient de plus en plus forte, et ils commencent à avoir de l'eau qui monte dans la rue, et ils commencent à avoir de la boue, ils commencent à avoir de l'inondation. Et ça en est à un tel point qu'à un moment donné, l'eau les fait tomber, l'idole tombe et elle se casse en deux. Elle casse des morceaux. Alors, ils ont dit, c'est pas grave, on a choisi le mauvais jour, on s'est trompé, on va faire 3 jours plus tard. On va refaire la même chose. Ils recollent, je ne sais pas s'ils mettent du scotch ou de la colle, peu importe. On y repart. Le 14. Alors, quand Watchmani et ses amis ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis? Ils ont prié, ils se sont mis à genoux. Seigneur, tu as déjà accompli cette œuvre-là merveilleuse. Tu peux faire encore ton travail dans cette île. Et lorsque donc l'idole est sortie, le ciel était dégagé encore une fois. De beaux jours. Alors, ce qui était incroyable, c'est que le 11, il y a eu ce torrent d'eau, etc. Mais les autres jours, il faisait super beau. Et puis, le 14, c'est pareil. Ça commence dans une belle journée, un beau soleil. Et à l'heure où l'idole sort, il se met à pleuvoir à nouveau. Et l'eau remonte comme ça a été le cas le 11. Et le résultat, c'est que les gens ont compris le pouvoir du Seigneur Jésus, le pouvoir de la prière, le pouvoir de la communion avec Dieu, de ces hommes qui étaient là tout simples, tout tremblants, mais qui avaient une force parce qu'ils cultivaient leur communion avec le Seigneur. Et beaucoup de personnes ont été converties à la suite de ces événements-là, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont fléchi le genou et qui ont cherché la face de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que ça vaut pas la peine de cultiver notre communion avec le Seigneur, que ça soit personnellement, que ça soit en famille, que ça soit à l'église, mais peu importe, ensemble, nous voulons cultiver la communion avec le Seigneur, parce que il y a un monde qui se perd, il y a des hommes et des femmes autour de nous qui ont besoin, qui crient sans le savoir, ils crient après des hommes et des femmes qui vont pouvoir leur parler. Mais si nous parlons de nous-mêmes, savez-vous ce qui va se passer? Ben rien. Il va rien se passer. Mais si nous parlons remplis du Saint-Esprit, parce que nous avons cultivé notre communion avec le Seigneur, celui qui cultive la présence de Dieu sera rassasié de pain. Et non seulement il aura du pain pour nourrir son cœur, mais il aura aussi du pain à donner à celui qui est autour de lui, quelque chose qui vient du ciel, une parole dite à propos, ça fait du bien à quelqu'un. Et je sais ô combien autour de nous il y a des hommes et des femmes. Cette semaine, j'étais stupéfait, mais cette semaine, alors qu'on avait un souci de voiture, je ne vous raconte pas toutes les circonstances, mais à l'accueil du garage, j'ai pu parler du Seigneur. Sans que je cherche quoi que ce soit, c'est la personne qui, en voyant le nom Assemblée de Dieu sur la carte grise, elle a posé des questions, elle a dit « Ah oui, moi je connais quelqu'un dans ma famille qui est protestant » et on a pu parler du Seigneur, tout simplement, parce que le Seigneur conduit, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais quand on cherche, quand on cultive la communion avec le Seigneur, ben il nous donne les occasions de distribuer après le pain dont il nous rassasie. Luc chapitre 10, verset 38. Là aussi, vous connaissez bien ce passage dans l'Évangile qui met en scène Marie et Marthe. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qu'il ne lui sera point ôtée. Amen. Je demande à l'Éternel une chose. Et Jésus dit, une chose est nécessaire. Nous comprenons que dans cette chose dont Jésus parle, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté. Et qu'est-ce que dont il est question, cette chose à cultiver, on comprend que c'est écouter la parole du Seigneur, se mettre au pied du maître, se mettre au pied du maître, c'est facile à retenir, hein, mais se mettre au pied du maître, écouter, disposer notre cœur à entendre et à recevoir ce que le Seigneur veut nous communiquer. Oh, combien je suis désolé quand je vois des personnes, parfois même des pasteurs, vous savez, on voit des fois des prédications où le pasteur veut amener les gens là où il a envie de les amener et il cherche des versets pour argumenter ce qu'il est en train de dire. Mais moi, je préfère laisser la parole de Dieu m'amener là où elle veut m'amener et la laisser dire ce qu'elle veut dire, tout simplement. Parce que je sais que le pouvoir, la puissance, ça ne vient pas de moi, de mon raisonnement, de mon intelligence, mais ça vient de la parole de Dieu. Et combien c'est bon. Mais parfois, on se fait piéger. Parfois, on cherche le verset qui va confirmer qu'on a raison. Non, non. Écoute la parole et regarde si tu as raison. Peut-être que tu auras tort. Mais si tu as tort, le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur va te montrer le chemin. Je fais une chose. Une chose est nécessaire. Qu'est-ce qui touche le cœur de Jésus dans ce passage? Est-ce que c'est le fait que Marthe s'agite? Je suis sûr en plus que Marthe devait être une excellente cuisinière, une excellente maîtresse de maison. La maison devait être nickel, merveilleusement bien décorée. Je suis sûr. Je lui demanderai quand je serai dans le ciel. Mais je suis sûr. Mais est-ce que c'était ça que Jésus cherchait? Non. Vous savez, Jésus, il ne cherchait pas à être bien reçu. Regardez juste sa naissance. On va bientôt arriver dans la période de Noël. Souvenez-vous de comment Jésus est né. Dans une simple étable, son berceau, c'était une mangeoire. C'est pas ça qu'il cherchait. Il aurait pu naître dans un palais, mais il n'a pas voulu. Parce qu'il voulait être proche de ceux qui cherchent Dieu. Et les bergers qui étaient un peu rejetés de la société, qui passaient la nuit dehors, ça a été les premières personnes qui ont goûté à la joie de voir le Messie. Oh frères et sœurs, que nous ayons ce cœur qui cherche les bonnes choses, pas à nous agiter dans tous les sens, à faire tout ce qui nous passe par la tête. Ce n'est pas parce qu'il y a un tampon église que forcément c'est ce que Dieu demande. Vous savez, des fois on fait plein de choses pour Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu va nous demander des choses précises. Il y a des choses que nous faisons, mais quand on le fait avec l'approbation de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que s'il manque de chantre ou quoi, je ne vais pas le faire quand même parce qu'il y a besoin. Non, non, mais repérer avec la communion avec le Seigneur, en se disposant à écouter sa parole, on sait là où le Seigneur met son onction sur notre vie. On sait dans quel domaine son onction est là. Et l'onction, ça ne peut pas se copier-coller. D'accord? C'est pas parce que je suis doué dans ce domaine qu'il y a l'onction de Dieu dans ce domaine que forcément dans un autre domaine ça va marcher. Non, parce que mon appel, il est là. Mon appel, il est là. Il peut y avoir plusieurs domaines. Oh, merci Seigneur. Mais c'est dans la communion avec le Seigneur et c'est en dressant l'oreille à ce que Dieu nous dit que nous savons petit à petit. Il y a des choses que je sais personnellement, je ne vais pas aller dans les détails, mais qui m'ont été données quand j'étais tout jeune. Quand j'ai cherché la face de Dieu, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a révélé certaines choses. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois que ça fonctionne. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est les promesses de l'Éternel. Je désire une chose, disait David, et Jésus va dire, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La foi et le progrès dans la foi, ce sont des choix. Ce sont des bons choix. On a toujours le choix. Jour après jour, on fait des choix et le Seigneur nous invite à faire le bon choix. Je veux terminer avec ce passage, Philippiens chapitre 3, verset 12, l'épître de Paul aux Philippiens. Voilà ce que nous lisons, au chapitre 3 et au verset 12. Vous avez vu que les personnes qui parlent de ces choses essentielles, que ce n'est pas quand même n'importe qui. Il est question du roi David, il est question du Seigneur Jésus lui-même. Et puis les questions de l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. En gros, c'est comme si Paul dit, bon, il y a ces discussions-là, mais ce point dont je parle, et c'est le plus important, on est obligé d'être d'accord, et à partir de ce point-là, on peut avancer ensemble. On a tous des façons particulière, différente et personnelle d'interpréter la parole de Dieu. Mais il y a ces choses-là dont on parle qui sont non négociables, qui sont essentielles. C'est pour ça que c'est des choses à cultiver dans nos vies, parce que ce sont ces choses qui sont indispensables pour notre foi. Et cette dernière chose à cultiver, c'est le renoncement à soi. N'est-ce pas de cela dont Paul est en train de parler? Et on sait que Paul sait de quoi il parle. Lui qui aurait pu être un grand maître pharisien, adulé par d'autres disciples, qui aurait pu faire beaucoup de choses avec sa connaissance théologique, intellectuelle de la Torah. Il avait eu les meilleurs des maîtres qui l'ont formé. D'ailleurs, ça se ressent quand on étudie les épîtres, on voit qu'il y a de la consistance. C'est du steak, les épîtres. Imaginez juste le verset qu'on vient de lire, on pourrait faire des heures et des heures de prédication, c'est pas le but ce matin. Mais cet homme a renoncé. Il y a une chose que fait l'apôtre Paul. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Oubliant ce qui est en arrière. On parlait des échecs du passé, on parlait de ce qu'on a pu vivre de mal, mais le Seigneur nous appelle à oublier ce qui est en arrière, que ça soit bon ou que ça soit pas bon. Par la grâce de Dieu, quand on a fait des choses mal, on est pardonné. Mais quand les choses qu'on considérait dans le passé qui étaient importantes pour nous, le Seigneur nous montre que c'est pas aussi important que cela. Ça veut pas dire qu'on les jette par terre, mais on laisse la priorité à la parole de Dieu. Pensez à Joseph dans sa prison. Est-ce qu'il aurait pu rester ancré dans son passé, dans les blessures, dans la trahison, dans tout ce que ses frères l'ont fait. En plus, ses frères, quoi. C'est pas des gens, c'est ses frères qui l'ont vendu, qui ont failli le tuer, et puis finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Mais qu'est-ce que a fait Joseph? Il a regardé vers le Seigneur. Il a oublié ce qui était passé. Alors, bien sûr, il y a eu certaines conséquences pour les frères, mais il a oublié. Il n'a pas choisi de l'amertume, il a choisi le chemin du pardon. Comment oublier le passé? Par l'action du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de, même les drames que l'on a pu vivre dans le passé, de les transformer en grâce par la puissance du Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de cela. Me portant vers ce qui est en avant, ça veut dire que Dieu met des nouvelles choses dans mon cœur, des nouvelles priorités, des nouveaux chemins. Ça a été dit tout à l'heure et je crois que c'est la parole de Dieu. Dieu veut mettre des nouvelles choses, mais pour qu'on vive les nouvelles choses, il faut abandonner les anciennes. Dieu fait une nouvelle créature, mais si la nouvelle créature s'attache, reste liée à ce qui est ancien, ça ne fonctionne pas. Il fait toutes choses nouvelles, notre Seigneur. Et il court, je cours vers le but, nous dit-il. Hier, vous avez peut-être fait attention, on est dans le sud-ouest, normalement le rugby c'est quelque chose d'important. Il y a eu le match, la France contre les All Blacks. J'ai regardé un tout petit bout, parce que le dimanche soir c'est pas le moment où je peux prendre beaucoup de temps. Mais quand même j'avais envie de voir le début et c'était impressionnant de voir la rage. Pour une fois, on peut dire ça, pour une fois les Français, ils ont vaincu les All Blacks. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'il y avait la récompense au bout. Alors, vous inquiétez pas, je n'ai pas regardé le match en entier. J'ai vu le résumé, juste pour savoir s'ils avaient finalement gagné. Parce qu'au début, ça a bien commencé, mais les Français se disent ils peuvent remonter. Mais ils ont gagné. Et ça m'a fait penser qu'on doit courir de cette manière-là. Il y avait une rage, il y avait une envie de gagner. Il y avait un but qui était devant eux. Alors, peut-être c'est juste pour un match, c'est juste pour une gloire passagère dans ce contexte-là. Mais pour nous, c'est tellement plus fort, tellement plus profond. Et nous avons besoin de mettre autant de rage, excusez-moi l'expression, mais c'est le mot que je trouve qui symbolise bien ce que nous devons vivre. Notre foi, c'est pas la rage contre les gens, c'est pas la méchanceté, mais c'est cette envie de nous dépasser, cette envie de laisser le Seigneur nous pousser en avant à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire par nous-mêmes. Nous courons vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Vous voulez remporter le prix? Vous voulez être récompensé dans le ciel un jour? Mais il nous reste une course à faire pendant toute notre vie. Hein. Ça ne se finit pas, ça se finira quand le Seigneur voudra. Mais nous avons besoin d'insister. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Et je m'attache à la parole de mon Seigneur. Un homme voyageait en Chine, il s'inquiétait parce qu'il devait plus tard transporter des bibles, des livres chrétiens, et il avait peur d'être emprisonné, tout ça. C'était un Américain qui venait donc voir des contacts sur place, et un ami l'a amené chez un couple à Hong Kong. Et ce monsieur qui l'a reçu chez lui, avec son épouse, ce monsieur a été libéré de prison assez récemment. C'était un Chinois de 60 ans, mais quand il a reçu ce monsieur, quand il a vu l'amour surtout qu'il y avait entre ce monsieur de 60 ans et puis sa femme, il était interpellé parce qu'ils étaient tout le temps en train de se tenir la main, tout le temps en train de se regarder. Alors, pour des jeunes, ils comprenaient, mais là, ça l'interpellait en tout cas. Et eux, ils ont vu qu'ils les regardaient de cette manière-là. Donc, ils ont rigolé. Ils ont dit à l'interprète de lui expliquer ce qui se passe. Et donc, le monsieur a expliqué, mais vous savez, on est des jeunes mariés. 60 ans, mais on est jeunes mariés. Et en fait, il a expliqué l'histoire. En fait, il s'était fiancé dans les années 50. Le monsieur était étudiant à l'école biblique. Et un jour, les communistes chinois sont entrés, ils ont pris le bâtiment, ils ont emprisonné tous les étudiants, parce que étudier la Bible, c'était pas bien pour eux. Et ils ont pris tous les étudiants et les ont mis dans des camps de travaux forcés. Et donc, pendant 30 années, cet homme est resté en prison. 30 années en prison, et sa future mariée, sa fiancée, est venue, n'avait le droit de venir le voir qu'une fois par an. Et ça ne durait que quelques minutes. Et vous savez, ça c'était déjà difficile. Chaque année, il attendait ce moment de voir sa fiancée pendant quelques minutes. Mais après, à chaque fois, il avait le droit d'aller dans le bureau du directeur de la prison. Et le directeur lui disait, vous savez, mon cher, vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui avec votre épouse, avec votre fiancé, si vous choisissez de renoncer à Christ. Et vous savez, ça a été quoi sa réponse pendant 30 ans ? 30 fois, il a dit non, jamais. Mais vous imaginez la tentation que c'est ? Tu peux repartir des travaux forcés, maintenant là, il suffit que tu dises, je renie le Seigneur. Mais cet homme a tenu bon. Et donc, 30 ans après, il est sorti de prison, ils se sont mariés, elle a attendu patiemment, malgré 30 années, elle a attendu, c'est pour ça qu'ils étaient jeunes mariés à leur âge, et ils bénéficiaient de cette relation particulière. Mais surtout, cet homme qui entendait cette histoire, il était interpellé, il a dit, mais comment est-ce que vous avez pu supporter la tension d'être privé de votre famille, de votre épouse, de votre mariage, même de votre santé, parce que cet homme avait eu des séquelles, il était plié en deux à cause de ce qu'il avait subi. Comment est-ce que vous avez pu accepter tout ça? Et cet homme qui a vécu ça, il a dit, mais... presque étonné de la question, mais il a dit, c'est simple. Avec tout ce que Jésus a fait pour moi, comment est-ce que je pouvais le trahir? Et cet homme qui réfléchissait, qui avait peur de porter des bibles et d'être renvoyé dans son pays, il était interpellé par la réponse de cet homme. Et il a dit, ben moi aussi je veux faire ma part. Il a rempli son sac de bibles, de livres chrétiens, et ils ont prié, et Dieu a permis qu'il passe sans avoir aucun embêtement, et qu'il puisse faire du bien aux personnes à qui il allait distribuer. Mais ce vieux monsieur a dit, comment est-ce que je pourrais trahir le Seigneur avec tout ce que Jésus a fait pour moi? Ça demande du renoncement, et on a besoin de cultiver le renoncement. Mais c'est une chose qui est bonne, parce que quand on cultive les choses qui plaisent à Dieu, on est rassasié de pain, rassasié de bien, rassasié de grâce, rassasié. Je continue pas la liste, vous mettez ce que vous voulez, mais on est rassasié par le Seigneur. On va fermer les yeux quelques instants. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux juste appuyer, je crois qu'il en a assez été dit, sur ces choses qui sont essentielles. Cultivons notre communion, cultivons la présence de Dieu dans notre vie, cultivons le discernement du Saint-Esprit. Cultivons ces temps précieux où on écoute la parole de Dieu. Cultivons le renoncement à nous-mêmes. Ça vaut la peine, parce que Dieu fait de belles choses avec des personnes qui acceptent de se sacrifier. Regardez le sacrifice de Christ. C'est un renoncement, le plus beau renoncement de tous les temps. Un homme innocent, mis à mort, mais qui amène la vie à une multitude. Et nous croyons que ce matin, cette vie est là encore pour nous. Seigneur, je veux te présenter nos vies ce matin. tu vois, tout ce qui a pu être partagé, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Mais chacun personnellement, nous voulons mettre en œuvre ta parole. Nous voulons désirer cette chose habiter dans ta maison tous les jours. Nous mettre à tes pieds, recevoir les instructions, recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner par ta parole. Tu connais les directions que tu veux donner à certains, Seigneur, ce matin. Tu connais, Seigneur, les confirmations ou alors les mises en garde que tu veux donner, mais que ton esprit ait la liberté ce matin de le faire. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous montre la voie où nous devons marcher. Nous voulons, Seigneur, humblement te demander de conduire nos vies, de conduire ton Église à Auch, de conduire tes Églises dans ce département, afin que le royaume de Dieu puisse avancer, s'étendre, se répandre, Seigneur, autour de nous, là où il y a tant et tant de besoins. Seigneur, nous voulons avoir cette parole à propos pour nos voisins, pour nos familles qui ne te connaissent pas, pour ceux qui nous entourent, pour les pauvres, pour ceux qui sont touchés par la vie, par les épreuves de la vie, Seigneur. Nous voulons avoir quelque chose à donner, mais pas quelque chose de nous, quelque chose de toi. Fais ton œuvre éternelle. Que ton nom soit béni. Amen.